Eh bien, bonsoir à tous et que Dieu vous bénisse.
Merci.
C'est donc la dernière leçon du cycle de l'année 2012-2013. Je suis le dernier intervenant aujourd'hui. Donc les cours au centre Dumitru Staniloae reprendront au mois d'octobre et vous serez informés en détail du programme de l'année universitaire 2013-2014. En allant sur le site Apostolia TV. Alors, aujourd'hui, on en est au chapitre 9 et au chapitre 10 de l'Évangile de Saint Jean. C'est la suite des chapitres précédents, bien sûr. Nous avons vu qu'il y a une grande unité de 6 à 10 dans l'Évangile de Saint Jean, particulièrement même de 7, 8, 9 et 10, où nous avons vu se déployer dans le cadre d'une controverse de plus en plus forte, de plus en plus vive, entre d'une part Jésus et les autorités juives qui cherchaient à le faire périr, mais également un certain nombre de pharisiens qui sont divisés aussi quant à la personne de Jésus et dont certains vont s'opposer directement à lui. On sait depuis le premier verset du chapitre 7 que on cherche à faire périr Jésus, on le recherche pour le faire périr. Et nous avions vu donc précédemment avec les chapitres 7 et 8 que des enseignements majeurs avaient été donnés par le Seigneur, enseignements où se déploie la révélation du mystère de sa personne. Des enseignements majeurs, donc, donnés dans le cadre de la fête des tentes. Alors, vous savez qu'il y a plusieurs fêtes liturgiques, bien sûr, chez les anciens Hébreux et chez les Juifs d'aujourd'hui, et la fête des tentes, ou des tabernacles, ou des huttes, ou des cabanes, c'est une fête d'automne qui est très importante parce que c'est une des trois fêtes de pèlerinage. Il y a Pessah, donc la Pâque, Shavuot, 50 jours après la Pâque, dans le judaïsme c'est le don de la Torah, 50 jours après la Pâque, et il y a Sukkot, la fête des tentes. Et nous avions remarqué depuis le début, pas seulement avec les chapitres 7 et 8, nous avions remarqué que les enseignements et les révélations sur la personne de Jésus sont donnés dans le cadre des fêtes qui sont célébrés. C'est très lié, je veux dire, les fêtes et les révélations. Et alors donc, au chapitre 7 et 8, Jésus nous dit qu'il est source de vie, qu'il est lumière du monde. Alors, il y a un détail à retenir, c'est que pendant la fête des tentes, il y a un luminaire qui est dans le parvis des femmes, au temple de Jérusalem, qui éclaire la ville. Comme le temple est en hauteur et que la ville est plus basse que lui, toutes les terrasses des maisons sont éclairées. Et quand ce grand luminaire est allumé, c'est à ce moment-là que Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Vous voyez, il y a un lien toujours intime entre cette vie à Jérusalem, et plus généralement la vie du peuple hébreu, et les révélations qui sont faites de la personne du Seigneur. Et puis il y a le sommet de la Christologie johannique à la fin du chapitre 8, au verset 58, quand il dit « Je suis ». À plusieurs reprises dans l'évangile de Jean, il dit « Je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger ». Mais là, c'est un « je suis » sans attribut. Donc c'est le nom divin révélé à Moïse sur le mont Horeb. Et donc la réaction, évidemment, des Juifs à ce moment-là, c'est ils cherchent à le lapider parce qu'ils l'accusent de se prendre pour Dieu, bien sûr. Donc, il va quitter le temple après, justement, tout ce qu'il aura dit sur la véritable postérité d'Abraham et sur cette révélation majeure de son mystère, à savoir sa divinité. Quand il dit « Je suis », il révèle publiquement sa divinité devant tous ses auditeurs qui sont au temple. Et donc, nous le savons, il opère une division parmi ses interlocuteurs. Il a les autorités juives qui s'opposent fermement à lui. Il divise la foule plus ou moins grande selon les moments qui est en face de lui. Et il opère une division aussi parmi les pharisiens. Les pharisiens ne sont pas un bloc homogène en face de lui. Il y a des pharisiens qui vont vers lui et il y en a d'autres qui s'opposent fermement à lui. Toutes ces révélations, je rappelle, sont faites en fonction du dessein de Dieu. C'est-à-dire que d'un bout à l'autre de l'évangile de Jean, il y a toujours cette notion d'heure. Vous savez que vous rappelez que depuis Cana, quand la mère de Dieu lui dit « ils n'ont plus de vin », il répond « femme, quoi entre toi et moi ?» littéralement. Une manière de dire que son heure n'était pas venue et qu'il accomplissait le dessein de Dieu pour lequel il était venu parmi les hommes, pour lequel il s'est fait homme, quand l'heure est venue et pas avant. Personne ne peut le contraindre. Et au chapitre 7, quand commence le chapitre 7 également, nous avons vu que ses frères l'invitent à monter à Jérusalem pour que ses disciples voient ses œuvres, et il dit non. Dans un premier temps, il ne suit pas ses frères qui montent à Jérusalem. Il y monte quand l'heure est venue. Bon, tout ça, c'est autant de thèmes récurrents qui parcourent tout l'évangile de Jean, qui, je le rappelle, est l'évangile de la nouvelle Genèse et l'évangile aussi du nouvel Exode. Parce qu'il y a une prégnance du soubassement vétérotestamentaire dans l'évangile de Jean, et en particulier la présence du livre de l'Exode. Parce que de même que les Hébreux ont été... Dieu a sorti les Hébreux d'Égypte sous la conduite de Moïse, ils ont pérégriné dans le désert et ils sont allés en terre promise. De même, le Verbe de Dieu qui s'est fait homme, eh bien, il descend du sein de la Sainte Trinité, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, pour remonter vers le Père et pour nous entraîner à sa suite vers le Père. Donc il y a un double mouvement d'exode dans l'évangile de Jean, et ce thème est très présent d'un bout à l'autre. Alors, avec le chapitre 9, on est dans la continuité du chapitre précédent, puisque après avoir dit « Je suis », on veut lapider le Seigneur et il quitte le temple. Certaines versions des évangiles, des versions qui appartiennent au texte majoritaire, disent « et il passa au milieu d'eux et il sortit du temple ». Bon, par exemple, dans la Tobe, c'est pas dit. On dit « mais Jésus se déroba et sortit du temple ». Bon. Mais il sort du temple. Donc il y a une continuité spatio-temporelle dans l'action. Le Seigneur quitte le temple et il va accomplir un acte, un signe, en faveur de quelqu'un qui, en passant, il voit. C'est un aveugle de naissance. Et il nous est dit également, plus loin, donc que c'est un mendiant. Aveugle et mendiant. Mendiant, c'est spécifié au verset 8 du chapitre 9. Alors là, déjà, d'entrée de jeu, il y a deux choses il y a une remarque que l'on peut faire, c'est, il est dit en passant. Le Seigneur, il passe, il marche et il fait des rencontres. Parce que il est là pour le salut des hommes et il va au-devant des hommes, quelque sorte. Et là, vraiment, au début de ce chapitre 9, il va au-devant de cet aveugle et mendiant. Et il y a une première correspondance spirituelle qui est assez riche d'enseignements, puisque celui qui va être le bénéficiaire du signe, eh bien, c'est un aveugle et un mendiant, ça veut dire que c'est quelqu'un qui aspire à la lumière, parce qu'il est aveugle, et qui cherche, là c'est une transposition spirituelle que je fais, il aspire à la lumière et il cherche la vérité, il mendie la vérité. Son état de mendiant renvoie, on est toujours sur des thématiques de la double entente hein, dans l'évangile de Jean, renvoie donc à cette aspiration à la lumière, lui qui en est privé parce qu'il est charnellement aveugle, et cette aspiration aussi à la vérité, il mendie la vérité. Et d'entrée de jeu, parce que la personne de l'aveugle-né va être complètement au centre de ce chapitre 9, d'entrée de jeu, on a une caractéristique de tous ceux qui cherchent le Seigneur. Ils aspirent à la lumière et ils sont mendiants de la vérité. Les deux vont ensemble d'ailleurs. La lumière et la vérité sont inséparables. Alors, notons également que ce récit johannique au chapitre 9 de l'aveugle-né, il est singulier. Il diffère notablement des autres guérisons d'aveugles que nous rencontrons dans l'Évangile, dans les évangiles synoptiques, par exemple en Matthieu 20, 29, 34, en Marc 10, 46, 52, en Luc 18, 35, 43, en Matthieu 27, 31, et en Marc 8, 22, 26. J'ai peut-être oublié des références, mais ce n'est pas ça qui importe. Dans tous ces cas que je viens de citer, la guérison intervient suite à l'ardent désir des intéressés ou à l'appel de tierces personnes. Les intéressés, bien sûr, veulent être bénéficiaires de la guérison. Souvent, le Seigneur leur dit « Veux-tu guérir ?» Et, ou si ce n'est pas les intéressés directement, ce sont de tierces personnes qui demandent la guérison de ces aveugles. Ici, on n'a rien de tel. L'aveugle-né, si on en croit la narration de saint Jean, il ne demande rien. Ça fait très longtemps qu'il est là. Il est aveugle de naissance et il est mendiant. Donc, on l'imagine non loin des parvis du temple, à je ne sais quelle porte de ce temple, et il ne demande rien à personne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent devant lui et qui l'ignorent. Or là, bien qu'il ne demande rien, il va être bénéficiaire d'un signe tout à fait éminent de guérison de la part du Seigneur. C'est le Seigneur qui est à l'initiative. Et derrière ça, bien sûr, il y a une autre leçon spirituelle, c'est lui qui, d'un bout à l'autre du chapitre 9, conduit la transformation intérieure de l'aveugle-né, parce que c'est ça l'enjeu du chapitre 9. Derrière cette guérison, on va voir un homme qui va se redresser, qui va donner sa foi au maître de la vie et qui va devenir témoin, malgré tous les dangers qu'il encourt, malgré la solitude qui va être son lot, il va devenir témoin de celui qui l'a guéri. Et il va le reconnaître, on va voir ça plus loin, non seulement comme prophète, mais quand le Seigneur va lui dire « Crois-tu au Fils de l'homme ?» il va avoir cette réponse admirable, mais « Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Et quand Jésus va lui dire « C'est moi qui te parle », il va tomber le front en terre, il va se prosterner. Donc il va reconnaître la divinité de celui qui est en face de lui. Ce sera plus simplement le prophète, mais le Fils de l'homme, et le Fils de l'homme, c'est un titre messianique. C'est le Fils de l'homme, il vient à la fin des temps.
Un titre messianique.
Oui, si l'on en croit la prophétie de Daniel, ça appartient, c'est une prérogative du Messie de porter ce nom, et c'est un titre eschatologique, hein, bien sûr. Le Fils de l'homme vient à la fin des temps.
Oui, donc quand le Christ s'appelle comme ça, il se désigne comme Messie.
Eh oui, bien sûr. Ah, oui, tout à fait. Oui, parce qu'on va voir plus loin que bien que la foi de l'aveugle-né grandisse, dans un premier temps, il ne le reconnaît que comme prophète, c'est-à-dire un homme de Dieu, fidèle à sa mission, à qui Dieu donne la vision et l'intelligence d'événements à venir, mais c'est insuffisant. Il faut qu'il passe de la reconnaissance de Jésus comme prophète à la reconnaissance de Jésus comme fils de l'homme, et donc comme Messie des derniers temps, celui qui devait venir. Oui, 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 bien sûr. C'est... Tout à fait. Tout à fait, c'est un cheminement de foi aussi, hein, chez la Samaritaine. Alors, une première conclusion s'impose dès cette première rencontre que l'on voit dans le chapitre 9, des versets 1 à 5. C'est que l'aveugle-né, on peut dire qu'il est le type, qu'il est la figure du croyant illuminé par la foi. C'est vraiment... et c'est, cette guérison, il ne l'a pas demandée, elle lui est donnée. Donc ça veut dire aussi que c'est le Christ qui est à l'initiative. Nous ne nous donnons pas la foi à nous-mêmes. C'est le Christ qui nous choisit et qui appelle notre réponse et qui nous fait grandir dans la foi par le travail du Saint-Esprit en nous. Donc vous voyez, c'est vraiment le type de ce croyant illuminé dans la foi. Alors, il y a donc aussi une caractéristique, c'est que tout au long du chapitre 9, il y a une double trajectoire. Il y a celle de l'aveugle-né qui est bénéficiaire de cette guérison, qui va grandir dans la foi, qui va témoigner de manière tout à fait héroïque, hein, parce que les dangers sont grands pour lui, et qui va reconnaître le Fils de Dieu, confesser qu'il est le Fils de Dieu. Et dans le même temps, il y a une trajectoire inverse, c'est-à-dire que les autres interlocuteurs de Jésus dans cette histoire vont se diviser, et un certain nombre de ceux qui vont s'opposer de plus en plus à lui, eh bien, vont s'enfoncer dans les ténèbres, en fait. Et ça sera la fin du chapitre 9, quand Jésus répond donc à ceux des pharisiens qui s'opposent à lui, et qu'il leur dit « Si vous étiez des aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais à présent, vous dites, nous voyons, votre péché demeure. » Vous voyez ? Donc il y a ces deux trajectoires qui sont constamment mêlées et qui sont évidemment non seulement le signe d'hommes opposés, mais c'est des trajectoires qui nous traversent aussi. Parce que tout ça, ça a une activité pour la vie chrétienne de chaque génération. C'est pas simplement une leçon qui est donnée aux témoins oculaires. Ça concerne les croyants de toutes les générations. Et nous sommes traversés par ces deux attitudes contradictoires. Il ne faut pas l'oublier. Deux trajectoires, donc, qui fait que les voyants, entre guillemets, eh bien, à la fin, ils deviennent aveugles. Venant donc dans le monde, la lumière a cette double fonction. Elle illumine ou elle rend aveugle selon nos dispositions intérieures. C'est-à-dire que si nous sommes dans l'attitude des pharisiens qui s'opposent à Jésus, la lumière, elle nous brûle. Si au contraire, nous sommes dans la disposition intérieure de l'aveugle-né, la lumière, elle nous rend la vue, elle nous illumine. Vous voyez ?
Ah oui, les ténèbres pour les uns et les lumières pour les autres.
Voilà. Mais en même temps, c'est deux trajectoires qui résument bien aussi notre état intérieur dans le déroulement de notre vie. Nous ne sommes pas... Les personnages de l'Évangile sont bien sûr campés, mais ils sont emblématiques d'attitudes spirituelles qui sont contradictoires et qui nous traversent. Donc,
qui se mêlent aussi dans l'âme des saints.
Oui.
Le saint, c'est mort.
Oui, oui.
Et dans la vie comme
ça. Oui, oui, tout à fait. Alors, autre remarque, c'est qu'au chapitre 9 de Saint Jean, tout le chapitre est encadré par deux paroles qui sont très importantes. Au verset 5, il répète qu'il est la lumière du monde, il l'a déjà dit dans ce que nous avons vu précédemment. Il redit « Je suis la lumière du monde ». Et au verset 39, il parle du jugement, afin que ceux qui ne voyaient pas voient et que ceux qui voyaient deviennent aveugles. Parce que la présence de la lumière divine au milieu des hommes, elle opère la séparation des hommes. Et Saint Jean Chrysostome dit que c'est une division bienheureuse entre les hommes, celle-là. Il y a des divisions qui sont malheureuses, dit-il, mais celle-là, elle opère une séparation qui est bénéfique. Il y a beaucoup de... J'en profite pour rappeler que les homélies de Saint Jean Chrysostome sur le chapitre 9 et le chapitre 10 sont très, très développées et très belles, pleines d'enseignements. Et je vous invite à vous y reporter. Alors j'avais signalé qu'on peut trouver sur Internet à l'abbaye Saint-Maurice en Valais, une abbaye bénédictine suisse, il y a toutes les homélies de Saint Jean Chrysostome. Alors c'est une traduction du 19e siècle, donc qui n'est pas toujours très très bonne, non pas parce qu'elle est du 19e siècle, mais elle prête à des corrections à maintes endroits, mais enfin elle a au moins le mérite d'exister en langue française, parce qu'en langue française nous manquons souvent d'écrits, on en parlait tout à l'heure, nous manquons souvent d'écrits des pères et des maîtres de l'Église. Et bon, cette traduction a au moins le mérite d'exister et de nous faire entrer dans la pensée de ce géant qu'est Saint Jean Chrysostome. Alors vous remarquerez que dès le début du chapitre 9, il y a une question qui est posée par les disciples, s'agissant du sens de la souffrance. On dit, les disciples disent, mais Rabbi, qui a péché pour qu'il ne soit né aveugle, lui ou ses parents ? Bon, il y avait une croyance assez répandue qui voulait que celui qui souffrait d'infirmité majeure comme ça hérite du péché, des péchés de sa lignée. Et le Seigneur coupe court, ne rentre pas dans la logique de cette question. Il ne cherche pas du tout à apporter une réponse au sens de cette cécité charnelle qui frappe l'aveugle-né. Il dit « Ni lui ni ses parents, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Voyez ? Et donc, ça c'est quelque chose de très important. Parce que sa cécité, c'est une chose, la nature même de la souffrance, là, n'est pas évoquée. Ce qui est mis en avant, c'est l'œuvre de guérison divine qui va s'accomplir dans cet aveugle né. Il n'explique pas la souffrance parce qu'elle appartient à l'indicible, mais en quelque sorte, il la porte, parce que le Verbe éternel de Dieu s'est fait homme, et il porte toutes les souffrances des hommes. Il les assume jusque à la souffrance ultime qui est la mort. Il descend jusque dans l'empire de la mort pour le faire éclater. Et il insiste sur le fait, il est dit, « Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où nul ne peut travailler. » Alors ce « nous », il pose beaucoup de questions aux exégètes, il est un peu mystérieux, on dit peut-être que le pluriel est employé par le Seigneur qui parle de lui et de ses apôtres. Parce qu'effectivement, si on relie ça avec la perspective de l'aveugle-né qui va retrouver la vue, qui va être progressivement illuminé par la lumière du Christ, qui va confesser la foi dans le Fils de l'homme et qui va devenir témoin, effectivement, le Christ associe ses disciples de toutes les générations à l'heureuse annonce de la miséricorde de Dieu pour les hommes, du salut et de la libération du péché, et bon, l'heureuse annonce de l'Évangile, bien sûr, qui porte cette libération. Alors, à partir du verset 6 et 7, on est dans la guérison proprement dite. S'accomplit de manière très très courte l'accomplissement du signe. Donc Jésus accomplit un signe, et ce signe, il est très intéressant. Parce qu'il prend de la boue, il la met sur les yeux de l'aveugle mendiant, et il lui dit d'aller se laver à la piscine de Siloé. Siloé, ça signifie l'envoyé. Donc, qu'est-ce qu'il fait en faisant cela? Il prend de la poussière du sol, c'est Adama. Il répète un acte créateur. Pourquoi je dis il répète? C'est parce que ça renvoie à Genèse 2:7, où Dieu prend de la poussière de la terre et insuffle l'haleine de la vie, Neshama, donc dans l'homme qui devient un être vivant. Donc derrière cette guérison de l'aveugle-né, il y a un acte de recréation, à peu près dans les mêmes termes que ce qui est décrit au verset de la Genèse, chapitre 2, verset 7. Et il va lui demander de se laver à la piscine de Siloé. Alors la piscine de Siloé, la fontaine, c'est un réservoir d'eau, donc qui est relié à une source par le canal d'Ézéchias, qui a été construit, je ne sais plus, 600 ans avant la venue du Seigneur. Et ce réservoir d'eau joue un grand rôle pour la ville de Jérusalem, et notamment lors des fêtes. Nous avions vu la dernière fois qu'on allait y chercher de l'eau, et que le dernier jour de la fête des tentes, il y avait des libations autour de l'autel. On tournait 7 fois autour de l'autel avec des branches de palmiers dans la main, et on acclamait David et le roi Messie, parce que la fête avait un versant messianique également. Bon. Donc, il lui dit d'aller se laver à la piscine de Siloé, et l'aveugle, il obéit immédiatement. Là, on peut mettre en parallèle plusieurs personnages dans l'Évangile, à l'occasion de cette guérison. Si on met le paralytique, la guérison du paralytique, dans cette même ville de Jérusalem, en résonance, donc la guérison du paralytique à la piscine de Bethesda, en résonance avec la guérison de l'aveugle-né du texte qui nous occupe, on voit que il y a parfois un comportement différent entre les deux. L'aveugle guéri de Bethesda, il se contente d'attester de ce qui lui est arrivé, mais on pourrait dire, pardonnez-moi pour ce mot, mais on pourrait dire qu'il est relativement passif. Alors que notre aveugle-né qui est guéri, lui, il est très obéissant, il obéit directement à l'ordre du Christ, et il va être très actif dans son processus de guérison intérieure, cette fois-ci, puisque là, c'est toujours le schéma de la double entente. La guérison de la cécité charnelle renvoie à la guérison de la cécité spirituelle. Saint Macaire d'Égypte, par exemple, il dit que nous avons 2 yeux charnels et nous avons 2 yeux spirituels. Et donc nous avons besoin que le Christ agisse en nous pour nous ouvrir les yeux spirituels. Parce qu'à cause du péché, nous sommes atteints d'aveuglement spirituel. Nos yeux spirituels ne voient rien. Il faut qu'ils s'ouvrent à la lumière. Donc l'aveugle en question va être obéissant. Et puis plus tard, il va témoigner sans détour de la vérité, dans un contexte très polémique devant les pharisiens, de ce que Jésus a fait pour lui. Alors, on pourrait dire aussi que, s'agissant d'un autre personnage, parce que le texte le suggère, et Saint Jean Chrysostome en parle dans un de ses sermons sur l'aveugle-né, qu'il y a d'un côté l'obéissance de l'aveugle-né et la désobéissance d'un nommé Naaman, qui était chef de l'armée du roi d'Aram, qui était un guerrier très vaillant, mais qui était lépreux, et que le prophète Élisée veut guérir. Et le prophète Élisée lui dit, « Va, je cite le texte de la Bible, hein, « Va, lave-toi cette fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras purifié. » Et le texte continue, c'est dans 2 Rois 5, 13 et 14. 2 Rois 5, 10, 12 d'abord, et 13 et 14 ensuite. « Naaman s'irrita et partit en disant, « Je me disais, il va sûrement sortir de chez lui, et debout il convoquera le nom du Seigneur son Dieu. » Passera la main sur l'endroit malade et délivrera le lépreux. L'Abana et le Parpar, c'est des fleuves de Damas, hein, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pouvais-je pas m'y laver pour être purifié? Il fit donc venir tout... Il s'en va furieux, Naaman, voilà. Mais il finit par se raviser en écoutant la parole de ses serviteurs qui lui disent, et c'est là les versets 13 et 14, « Mon père, si le prophète t'avait dit de faire quelque chose d'extraordinaire, ne l'aurais-tu pas fait? À plus forte raison quand il te dit « Lave-toi et tu seras purifié », alors, ajoute le deuxième livre des rois, « Alors Naaman descendit dans le Jourdain et s'y plongea sept fois selon la parole de l'homme de Dieu, c'est-à-dire d'Élisée, sa chair devint comme la chair d'un petit garçon, et il fut purifié. » Donc là, il y a cette opposition entre l'attitude de Naaman, qui n'est pas dans l'obéissance totale, hein, dans la confiance et dans l'obéissance qui naît de cette confiance, qui conteste, qui rejeune, pour finir par obéir, mais parce que ses serviteurs l'en ont pressé, et l'aveugle-né, qui lui, tout de suite, il obéit. Hein. Va te laver à la piscine de Siloé. L'aveugle y alla, il se lava, et de retour, il voyait. Et là commence. Donc l'aveugle n'est absolument pas passif, et il est obéissant, et non pas désobéissant. Il obéit tout de suite à l'ordre du Seigneur, et dans la suite des événements, il va manifester cette obéissance par le témoignage qu'il rend à l'auteur de du recouvrement de sa vue, c'est-à-dire celui qui est l'auteur du signe accompli, le Seigneur Jésus. Ensuite, du verset 8 à 34, on remarque, hein, dès le verset 8, alors ça c'est aussi une notation spirituelle qui s'adresse non seulement aux témoins oculaires, mais aux croyants de toutes les générations, entre le verset 8 et le verset 34, le Christ disparaît. Hein, il quitte la scène du récit et il ne va revenir qu'au verset 35. Comme si, lorsque le Seigneur opère une guérison, et ce qu'elle va mettre en route, il y a aussi l'homme qui doit accomplir sa part, qui doit grandir dans la foi.
C'est comme un retrait, comme le Shabbat, ça va aussi,
oui. Oui, tout à fait. Il se retire. Alors, bien sûr, l'homme n'est pas abandonné, c'est-à-dire qu'il y a l'Esprit de Dieu qui agit en lui. Mais le Christ se retire de la même manière qu'il va dire à la fin, après la résurrection, il est avantageux que je m'en aille, parce que pour que vous receviez le paraclet, celui qui va vous instruire dans la vérité tout entière, je dois partir. Et à ce moment-là, bon, évidemment, on peut se dire les disciples, ils sont laissés comme ça tout seuls, mais le Christ s'éloigne, il n'est plus au milieu d'eux, mais l'Esprit est là. Et là, bien que le Christ se retire, entre ce verset 8 et le verset 35, l'aveugle va continuer son chemin, va continuer sa croissance dans la foi, aidé par l'Esprit de Dieu, mais aussi par sa décision personnelle. C'est-à-dire que là, on voit que la part de l'homme doit accomplir sa part dans ce mouvement de transformation. Hein ? Il n'est pas le bénéficiaire passif de quelque chose, il est bénéficiaire de la lumière de vie, mais il doit aussi accomplir sa part. Alors, bien sûr, maintenant, on va rentrer entre les versets 8 et 34, on va rentrer dans les controverses. D'abord, avec le voisinage. Les voisins disent, mais c'est quand même curieux, celui qui voit, c'était un mendiant, et nous l'avons vu assis dans le temple bah, depuis toujours, puisque et il est né aveugle, donc nous l'avons vu faire la mendicité et être privé de la vue. Et maintenant il voit. Donc il se divise. Il lui demande, est-ce que c'est bien toi ? L'aveugle témoigne, c'est bien moi. Et ils lui dirent donc, et alors, tes yeux, comment se sont-ils ouverts ? Et là, l'aveugle répond, ce premier récit qui va se répéter à trois reprises, est tout à fait admirable, parce que l'aveugle reprend ce que le Seigneur a fait pour lui, reprend les paroles même du Seigneur et ce qu'il a fait pour lui. L'homme qu'on appelle Jésus, qu'il ne connaît pas, il connaît son nom, mais il ne connaît encore rien de lui, hein, finalement. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, m'a frotté les yeux et m'a dit « Va à Siloé et lave-toi ». Alors moi, je suis allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Et évidemment, les gens du voisinage lui disent « Mais où est-il celui-là ? Où est-il celui-là ? » La parole est dure hein, quand même. Hein. Et vous savez que c'est une parole menaçante. Hein. On avait vu dans les chapitres précédents hein, quand les autorités juives et les pharisiens pose la question, mais où est-il hein, c'est que bah, ils ont l'intention de mettre la main dessus, quelque part. Donc c'est une parole qui est grosse de choses pleines de dangers. Et il répond, je n'en sais rien. Et comme il répond qu'il n'en sait rien, il est conduit vers les pharisiens. Alors, je rappelle ces questions dans le premier dialogue. Le voisinage s'interroge en disant « Est-ce bien lui, celui qui était aveugle et mendiant ? Comment ses yeux se sont-ils ouverts ? Et où est celui qui l'a guéri ?» Parce qu'on va retrouver hein, ces questions qui vont revenir. Ensuite, parce qu'il n'apporte pas de réponse quant à la localisation de Jésus, il dit je n'en sais rien, on le conduit chez les pharisiens et les pharisiens tout de suite ce qui retient leur attention c'est que la guérison s'est opérée le jour du sabbat. Alors évidemment il y a contestation qui s'engage hein, puisque c'est le jour du sabbat que le Seigneur a pris de la boue et a ouvert les yeux de l'aveugle. Or, on sait qu'on ne devait pas travailler le jour du sabbat, qu'on ne devait pas opérer de guérison, sauf en cas de danger vraiment important. Donc, mais là, bon, l'aveugle né, il pouvait attendre pour être guéri. Il pouvait attendre un autre jour que le sabbat, puisqu'il était aveugle de naissance, un jour de plus ou de moins, ça n'aurait rien changé. Donc, les pharisiens, eux, ils retiennent que la guérison est opérée le jour du sabbat, et ils en concluent automatiquement, cet homme n'est pas de Dieu, puisqu'il a opéré une guérison le jour du sabbat, et il a donc transgressé la loi. Alors, ils accusent Jésus d'avoir transgressé la loi, lui qui est l'auteur de la loi et lui qui est le maître du sabbat. Nous savons. Bon. Donc, ils sont dans une position, disons, inconfortable parce que ils se demandent, puisque ce Jésus qui guérit le jour du sabbat, ils se demandent si c'est pas un faiseur de prodiges. Et puisqu'il guérit le jour du sabbat, il méprise la loi, il en transgresse les interdits, et c'est quelqu'un qui finalement égare le peuple. Ça fait référence à un récit que l'on trouve dans le Deutéronome, Alors, je ne vois plus où j'ai noté la référence, mais justement, ça concerne les faiseurs de prodiges qui égarent le peuple et qui méprisent la loi divine. Et inversement, et c'est là qu'on voit la division des pharisiens, parce que d'autres pharisiens se posent la question, comme ils la formulent, comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'opérer de tels signes ? Donc les pharisiens sont divisés. Il y a ceux qui, quand même, considèrent Jésus avec attention et se posent des questions sur lui. Et puis, il y a ceux qui ont un raisonnement très juridique, en disant « Non, mais il a fait une guérison le jour du sabbat, donc ça ne peut pas être un homme de Dieu. Et il faut se méfier, c'est peut-être un faiseur de prodiges qui égare le peuple. » Donc, on lui demande à l'aveugle de se prononcer sur ce Jésus qui lui a ouvert les yeux. Et il lui est posé la question suivante, « Et toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux ?» C'est au verset 17. Et là, on voit qu'il y a un approfondissement intérieur. L'aveugle-né, l'ex-aveugle-né, puisqu'il est guéri à ce moment-là, il a un cheminement spirituel intérieur, il progresse, il monte. Parce que sa réponse, ça va être « C'est un prophète. C'est un prophète. Seul un prophète pouvait opérer un tel signe, pense-t-il. » Donc vous voyez, d'abord, en face des premiers interlocuteurs, que sont les voisins, ils disent « Celui qu'on nomme Jésus a fait ça. Où est-il ? Je n'en sais rien. » Donc il ne le connaît pas et il ne sait pas où il est. Bon. Et là, en face des pharisiens, d'abord il répète l'acte de guérison, et quand les pharisiens lui demandent son témoignage, qui dis-tu de ce, que dis-tu de celui qui t'a guéri, il répond, c'est un prophète. Et là on voit, toujours dans la perspective des deux trajectoires que j'ai citées au début, que les pharisiens, loin d'accueillir cette parole de celui qui a été guéri, un aveugle-né, hein, il le dit plus tard dans le même chapitre, ça n'est jamais arrivé qu'un aveugle né soit guéri. Il y a des aveugles qui ont fait l'objet de guérison, mais un aveugle né, c'est la première fois que ça arrive, c'est Saint Jean qui le dit. Et les pharisiens, ils sont persuadés qu'ils ne veulent pas croire au signe qui a été accompli. Et donc le témoignage de l'aveugle ne suffit pas. Ils vont convoquer ses parents. Un troisième dialogue, hein. D'abord avec le voisinage, ensuite avec les pharisiens, ensuite avec les parents, et ensuite encore avec les pharisiens de Rechef. Ils vont convoquer les parents, et ils vont dire, eh ben, est-ce que c'est bien ton fils ? Est-ce que c'est bien votre fils ? Cet homme qui est là. Et bien sûr, les parents vont répondre, nous sommes certains que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle. Comment maintenant il voit, nous l'ignorons. La question va se déplacer aussi sur le comment de la guérison. Donc, comment il voit, nous l'ignorons. Et Saint Jean, qui est le narrateur, ajoute, ses parents parlèrent ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. Ceux-ci étaient déjà convenus d'exclure de la synagogue quiconque confesserait que Jésus est le Christ. Alors évidemment, comme l'évangile de Jean est le plus tardif, on sait qu'il est porteur, disons, de l'opposition entre l'Église primitive et la synagogue. Vous savez que à partir du synode, enfin postérieurement au synode de Yabné, donc, qui est le synode convoqué par les rabbins d'Israël suite à la destruction du temple. Il fallait restructurer la religion judaïque pour lui permettre de trouver un nouveau souffle, parce que c'était, au sens propre du terme, la destruction du temple était une Shoah. Une Shoah, c'est une grande catastrophe. Hein. Donc, la destruction du centre du culte d'Israël était une grande catastrophe. Donc, les rabbins ont convoqué ce synode à Yabné. Et à partir de ce moment-là, progressivement, mais quand même assez rapidement, les judéo-chrétiens qui continuaient à aller au temple et fréquenter les synagogues vont être exclus des synagogues. Mais il n'est pas pour autant imbécile de penser que dès le temps de notre récit, déjà, il y avait toute une fraction des pharisiens qui avaient une très très grande méfiance pour ceux qui suivaient le Seigneur et qui cherchaient à les éloigner de la synagogue, d'où la peur que les parents manifestent. Alors voilà, donc, et les parents se dégagent un petit peu en disant « Oui, mais notre fils, il est grand, il peut témoigner pour lui-même de ce qu'il fait, de ce qu'il porte, et interrogez-le. Hein. » C'est pas quelqu'un qui est un enfant mineur. Bon, vous pouvez l'interroger, il est en âge de vous répondre, et son témoignage est valide. Alors, autre remarque spirituelle, c'est qu'on voit que au fur et à mesure que l'aveugle-né grandit spirituellement intérieurement, il devient de plus en plus seul. Il est en quelque sorte lâché par le voisinage. Il fait l'objet d'une hostilité d'une partie des pharisiens qui ne croient pas au signe qui a été accompli en sa faveur, qui doutent qu'il ait été aveugle-né, donc qui le traitent de menteur. Hein. C'est pas dit dans le texte, mais c'est ça que ça signifie. Bon, et ses parents eux-mêmes vont se retirer de la scène. C'est-à-dire qu'ils pouvaient peut-être compter sur l'appui de ses parents, mais ses parents, ils ont peur. Ils s'écartent. Et pour accentuer sa solitude, le Seigneur lui-même a disparu depuis le verset 8 pour ne réapparaître qu'à partir du moment où les pharisiens vont expulser l'aveugle-né. Et là, le Seigneur va le trouver. Mais entre deux, tout le monde s'écarte de lui. Ça veut dire quand même quelque chose de très profond, ça, pour la foi. C'est-à-dire que quand le Seigneur nous guérit de la cécité spirituelle, parce qu'à l'arrière-fond, c'est tout ce cheminement qui se déroule, eh bien, si vraiment nous mettons nos pas dans les siens et que nous grandissons dans la foi, il y a des attitudes et des témoignages qui entraînent pour nous une solitude par rapport à nos familles, par rapport à notre pays, par rapport à toutes les situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver.
C'est un rapport inverse, un peu personnel. Dans la même fois qu'on monte,
oui,
par cette réalité, cette monde, elle nous laisse, elle nous quitte.
Oui.
Et aussi avant, dans le psaume, le roi David, il dit ça, que en fait, les premiers ennemis sont la famille.
Oui,
sont,
oui.
Qui sont, se trouvent dans ta maison. Et aussi, quand on arrive d'être exposé,
oui,
totalement dans une solitude absolue de ce monde, bah, Jésus, Dieu, il est à côté de nous, absolument.
Oui.
Et ça, c'est le pericile, comme on dit, vous savez, pericile.
Oui.
Pericile.
Oui, béatitude. Ouais, oui. Exactement. Exactement. Et alors, donc, et d'ailleurs, bon, il suffit de regarder le monde tel qu'il est, beaucoup de nos frères chrétiens, beaucoup d'hommes et de femmes dans ce monde qui embrassent la foi au Christ, eh bien, ça entraîne beaucoup de choses pour eux. Hein. Un isolement dans leur société, un éloignement des familles qui sont contre, enfin bon, jusqu'à la persécution. Jusqu'à la persécution. Beaucoup de nos frères chrétiens dans le monde aujourd'hui sont persécutés pour le nom béni du Christ. Hein.
Oui, mais
faut le savoir.
Hein. Ça, en fait, en même temps, Dieu, il est plus proche de ceux qui sont exposés,
oui,
de ceux qui...
Non, mais ils ne sont pas abandonnés par Dieu.
Non.
Ils ne sont pas abandonnés parce que le Christ, en fait, il est constamment à côté. Hein. Le Christ n'abandonne pas l'aveugle-né. Mais l'une des leçons spirituelles qu'on peut tirer, c'est que devenir disciple du Christ, c'est aussi courir le danger d'être rejeté par la société des hommes. Parce qu'en définitive, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Et comme le maître, le monde l'a haï, le disciple, le monde le haïra aussi. Vous voyez ? Donc, c'est bien dans cette posture aussi qu'est l'aveugle-né qui nous occupe aujourd'hui. Et là, à partir de là, il y a un second... entre les versets 24 et 34, donc, il est à nouveau conduit devant les pharisiens qui lui font répéter tout le récit pour essayer de le coincer, en quelque sorte. Ils lui disent « Rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » C'est-à-dire... renonce à ce que tu disais et reconnais que c'est un pécheur. Pourquoi c'est un pécheur ? C'est parce qu'il t'a guéri alors qu'au jour où c'était interdit qu'il te guérisse. Donc, rends gloire à Dieu, c'est une manière de dire renonce au mensonge que tu nous as raconté. Parce qu'en fait, il l'accuse d'être menteur. Hein ? Il ne croit pas un seul instant à tout ce qui a été dit précédemment. Et ils lui font répéter. L'aveugle-né, lui, au contraire, témoigne de plus en plus fortement, mais en toute simplicité. Il dit « Je sais, je ne sais si c'est un pécheur. Je ne sais qu'une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. » Et là, ils lui font répéter « Que t'a-t-il fait ? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Encore le « comment ?» Et là, c'est absolument admirable, c'est-à-dire que cette répétition va prendre fin parce que l'aveugle-né va court-circuiter la question et va dire « Je vous l'ai déjà raconté, mais vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore une fois ? N'auriez-vous pas le désir de devenir ses disciples, vous aussi ?» C'est-à-dire que là, il se dit déjà disciple de celui qui l'a guéri. Il est déjà disciple du Seigneur, et par une ironie toute johannique d'ailleurs, hein, il leur dit, mais bon, s'il faut que je vous répète tout ça, alors que je vous l'ai déjà dit, c'est peut-être que vous voulez devenir vous aussi, ses disciples.
Oui, lui, il démasque aussi les désirs profonds des pharisiens, mais parce qu'ils sont fiers. Ils ne sont pas capables de reconnaître.
Bien sûr, oui, tout à fait. Ah, oui. Oui. Alors là, évidemment, la polémique va... Il y a une pointe dans ce chapitre 9 avec la polémique qui va être vraiment très dure, parce que les pharisiens, comme toute réponse, ils vont l'injurier. Ils n'ont plus rien à dire, en fait. Ils sont au bout de leur raisonnement et ils l'injurient. Toi, tu es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Et en fait... Nous l'avons vu dans les chapitres précédents, Jésus leur dit, c'est le Christ lui-même qui leur dit, « Si vous étiez disciples de Moïse, vous seriez mes disciples. » Parce que Moïse a parlé de moi. Et c'est l'annonce dans le Deutéronome 18, donc du prophète qui devait venir. Et c'est lui le prophète qui devait venir. Donc si vous étiez disciples de Moïse, vous seriez aussi mes disciples. Donc vous n'êtes pas, comme vous n'êtes pas mes disciples, vous n'êtes pas disciple de Moïse. L'accusation est grave et solennelle en même temps. Donc, après avoir confessé que Jésus est prophète, il se présente dans un cadre très hostile, dans un environnement très hostile. Il se présente comme son disciple, je parle de l'aveugle-né, et ça entraîne à son endroit des injures. Et on revient toujours, en fait, dans le raisonnement de ces pharisiens qui lui sont hostiles à Jésus, on revient toujours aux mêmes choses que nous avons rencontrées. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, tandis que celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Et là, il y a un rebondissement. Je veux dire, si on mettait ça en scène, on voit que ça rebondit sans arrêt. Et... Le disciple, donc l'aveugle-né qui est disciple, qui a confessé hein, qu'il était disciple du Seigneur, il dit, c'est bien là en effet l'étonnant, que vous ne sachiez pas d'où il est alors qu'il m'a ouvert les yeux, laissant entendre que ce signe ne pouvait venir que de celui qui ne connaît pas encore complètement, mais de celui qui est investi de la puissance divine pour accomplir un tel signe. Voyez ? Donc là, il y a encore une progression. Prophète, il confesse qu'il est disciple, et il dit aux pharisiens, mais c'est quand même étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est, puisqu'il m'a ouvert les yeux. Sous-entendu, c'est quelqu'un à qui Dieu a donné une puissance qu'on ne trouve pas ailleurs, chez un autre. Et on voit en même temps que l'aveugle né n'est pas un ignorant, qu'il connaît l'Écriture. Saint Jean Chrysostome insiste dans un de ses sermons là-dessus. Parce que quand il dit « Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si un homme est plein de piété et fait sa volonté, Dieu l'exauce. » Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Donc, en disant cela, l'aveugle né, l'ex-aveugle né, eh bien, montre qu'il a retenu la leçon de l'Écriture et que, connaissant l'Écriture, il est aussi à même de cerner de plus en plus le mystère de la personne de celui qui lui a donné la guérison. Vous remarquerez donc que les pharisiens, ils n'ont pas bougé de position. C'est étonnant, je veux dire. On voit la progression de l'aveugle né et en même temps, on voit que les pharisiens, ils sont toujours, d'un bout à l'autre, restés sur leur position de négation du signe et donc de négation du Christ, hein, puisque c'est lui qui accomplit le signe. Et à la fin, ils reprennent à leur compte la question des disciples que nous avons vus au début, en disant « Tu n'es que péché depuis ta naissance. » Hein, vous vous souvenez qu'au début, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit aveugle de naissance? Et ils lui disent « Tu as péché depuis ta naissance et tu viens nous faire la leçon. » Et ils le jettent dehors. Voilà. Et là, à partir de ce moment-là, et là, c'est à la fois attendrissant et plein d'enseignements, le Seigneur réapparaît. Sachant qu'il avait été chassé, il vient le trouver, l'aveugle né. Saint Jean Chrysostome dit à ce propos-là, « Les Juifs le chassent du temple et le Seigneur du temple le trouve. » Moi, j'aime beaucoup cette expression. Les Juifs le chassent du temple et le Seigneur du temple le trouve. En le questionnant, cette fois-ci, tout à fait personnellement, il lui dit, crois-tu, toi l'aveugle né, crois-tu au Fils de l'homme? Et c'est là que la figure du Fils de l'homme apparaît. Encore un degré dans l'ouverture spirituelle donc, de l'aveugle né. Le Seigneur parle pas encore, il évoque la figure du Fils de l'homme, mais il ne dit pas d'entrée de jeu que c'est lui. Il dit « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Et ça entraîne cette question magnifique, je veux dire, pleine d'innocence et de profondeur. « Mais qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» C'est très beau, ça. Et Jésus lui dit « Eh bien, tu l'as vu, c'est celui qui te parle. » Et l'homme dit « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterne devant lui. C'est-à-dire que là, c'est plus seulement le prophète, l'homme de Dieu, qui accomplit le dessein, qui accomplit sa mission au nom de Dieu. C'est plus seulement ce prophète qu'il a en face de lui. C'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Messie des temps eschatologiques, le Messie des temps derniers, le Sauveur, parce que le Messie, c'est le Sauveur. C'est celui qui doit libérer l'humanité. Et ensuite, le chapitre se termine par cette évocation du jugement, cette évocation de la remise en question, afin que ceux qui voyaient qui ne voyaient pas voient. Le Seigneur vient pour donner la vue aux aveugles, et que ceux qui voyaient, que ceux qui avaient dit plus haut, nous savons, que Dieu nous a parlé par Moïse, nous savons, et bien en fait, en disant ce nous savons, ils s'enfoncent dans leur aveuglement. Et le Seigneur leur dit, mais à présent vous dites, nous voyons, mais votre péché demeure. Alors on voit bien que là, on est dans un discours de révélation, hein, quand la figure du Fils de l'homme apparaît et l'aveugle se prosterne. C'est un geste de prosternation qui, là, a une indication très précise. C'est-à-dire que le Seigneur dévoile qui il est, dévoile sa divinité sous son humanité, et l'aveugle-né le reconnaît et le confesse. Le confesse par ce geste de prosternation. Et il dit « Je crois, Seigneur ». Alors, il est intéressant de constater, et ça fait le lien avec l'affirmation du Christ... J'ai encore un petit peu de temps, oui. Avec l'affirmation du Christ qui suit au chapitre 10, à savoir la parabole du bon berger et le Seigneur qui dit « Je suis la porte des brebis et je suis le bon berger ». Parce que, alors que l'aveugle-né, l'ex-aveugle-né, est rejeté par les pharisiens, alors que, comme nous dit saint Jean Chrysostome, les Juifs le chassent du temple, le Seigneur du temple le trouve, eh bien, c'est une manière de nous signifier que, non seulement le Christ vient nous apporter la guérison, non seulement il nous fait croître intérieurement dans la foi, non seulement il nous dévoile progressivement son mystère, et il nous amène à la réponse de foi et de confiance en lui qui doit suivre cette révélation, mais en plus, il nous intègre dans une communauté nouvelle. Là, en filigrane, il y a le thème de l'Église qui apparaît, la bergerie. La bergerie, c'est aussi l'Église qui est figure anticipatrice du royaume. La bergerie du ciel et l'Église de la terre, c'est la figure anticipatrice de cette bergerie céleste du royaume de Dieu. Là, vous savez, le royaume de Dieu, c'est une figure tellement chargée de signification qu'on l'aborde par plusieurs côtés. Et le royaume de Dieu, c'est aussi la bergerie avec son pasteur. D'ailleurs, c'est récurrent dans l'Écriture. Dieu est vu comme le pasteur, hein, qui conduit son peuple, qui mène ses brebis dans des verts pâturages. Hein, il y a des emplois dans les psaumes, il y a des emplois aussi dans le livre d'Ézéchiel. Il y a des emplois de cette thématique également dans Isaïe, bon, dans Zacharie également. C'est quelque chose qui est très prégnant dans l'écriture du Premier Testament. Et là, nous voyons le Seigneur s'identifier comme la porte de cette bergerie et comme étant le bon berger. Mais ça fait suite au fait qu'il est allé chercher l'aveugle-né, hein, pour l'intégrer dans sa bergerie. Mais dans cette bergerie, on n'y rentre que par une porte. Hein. Les voleurs et les brigands, nous dit l'Écriture, et ça, là aussi, il y a une base vétérotestamentaire évidente, notamment dans le chapitre 34 du livre d'Ézéchiel, les voleurs et les brigands, ils n'entrent pas dans la bergerie par la porte, mais ils cherchent à escalader l'enclos. Et ça fait dire à saint Jean Chrysostome que c'est la caractéristique des hérétiques dans l'Église. Les hérétiques dans l'Église, ils cherchent, comme des voleurs et des brigands, pour disperser le troupeau du bon pasteur. Il cherche à entrer dans l'enclos du Seigneur, mais en escaladant l'enclos. Parce que, comme il ne passe pas par la porte, puisqu'il ne confesse pas celui qui est à la porte. Donc, s'il se présentait à la porte de l'enclos du Christ, le portier n'entendrait pas, ne reconnaîtrait pas leur voix et n'ouvrirait pas la porte. Alors que quand c'est le Christ, il y a cette double thématique, si vous voulez, hein, il y a un portier à la bergerie, et lorsque le Seigneur qui à la fois est la porte et celui qui va rentrer, eh bien le portier et les brebis reconnaissent sa voix. Et là, il y a quelque chose de très fort qui nous est donné, non seulement parce que dans cet enclos, on n'y passe que par la porte, c'est le Christ qui est la porte de la bergerie du royaume. Si on ne passe pas par la porte, on est voleur ou brigand. Et dit-il, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Et là, ça renvoie très explicitement au chapitre 34 d'Ézéchiel, où il parle des mauvais bergers du troupeau de Dieu, le prophète Ézéchiel, où il dit « Vous êtes de mauvais bergers parce que vous vous paissez vous-même au lieu de paître les brebis que je vous ai confiées. » Et le Christ, évidemment, lui, il demande la même chose. Il faut paître ses brebis et non pas chercher à les disperser, parce que c'est celui qui les rassemble, c'est dit plus loin. Là, il y a une leçon vraiment, enfin des leçons d'une très grande profondeur. D'abord, le Christ est la seule porte du royaume. Tout autre enseignement qui viendrait à nos oreilles, qui nie le Christ, on ne peut pas le recevoir, parce que tout enseignement qui nie le Christ, eh bien, ne conduit pas au salut. Hein ? Le Christ qui est la porte de la bergerie, du royaume, et qui est en même temps le bon berger, celui qui précède ses brebis, celui qui les conduit. Et saint Jean Chrysostome remarque d'ailleurs, toujours dans un de ses sermons sur ce chapitre 10, il dit, oui, mais le Seigneur, il fait l'inverse de ce que font les pasteurs habituellement. Parce que les pasteurs, ils marchent derrière le troupeau. Ils marchent derrière. Alors que là, le Seigneur, il est en tête. Il conduit. C'est lui. C'est dans ses pas que les brebis mettent leurs pas. Parce que c'est lui qui nous conduit vers la bergerie du royaume, vers le royaume de Dieu. C'est lui qui est la porte de ce royaume. Et c'est lui qui, en même temps, qui nous conduit vers ce royaume qui est déjà, qui, je le rappelle, quand on parle du royaume de Dieu, on est en face d'une réalité qui est déjà là, mais qui est en attente d'accomplissement plénier. C'est-à-dire qu'on est dans le temps du, ce que les théologiens ont appelé le déjà et le pas encore. Hein ? On est dans cet entre-deux. Et ce qui fait dire au père Dumitru Staniloae, d'ailleurs, que le temps, c'est les, je vous l'avais cité, je me répète, pardonnez-moi, le temps, c'est l'espace entre l'appel de Dieu et la réponse de l'homme. Hein ? On est bien entre ces deux bornes-là. Mais le royaume, il est déjà là, puisque le Christ est venu parmi nous, le royaume est déjà là.
C'est, le troupeau, il est là, mais il n'est pas compact.
Voilà. Et puis il est dit dans l'Évangile, ne savez-vous pas que le royaume est aussi à l'intérieur de vous ? Donc, mais il est en même temps en attente d'accomplissement plénier, puisque le Christ doit revenir en gloire. Alors, il est le bon berger, donc il est la seule voie de salut, en fait. C'est très important de répéter ça aujourd'hui, parce que, vous savez, aujourd'hui, on est dans les temps du syncrétisme, du relativisme généralisé. On aime bien les doctrines passe-partout. Et là, on a une affirmation claire qu'il n'y a qu'une seule voie de salut, c'est Jésus-Christ le Seigneur. Alors, bon, pour ceux qui ne connaissent pas le Christ, Dieu est mieux informé. Dieu a un dessein pour tous les hommes. dessein pour tous les hommes, mais en même temps, l'Évangile nous dit que c'est le Christ qui est la seule voie de salut. C'est pour ça que saint Paul dira dans l'Épître aux Galates, quand bien même un ange viendrait vous annoncer un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Hein? Il n'y a qu'un évangile de Jésus-Christ, il n'y a qu'un seul sauveur, il n'y a qu'un seul berger, celui qui marche en avant des brebis que le Père lui a confiées, parce que vous avez vu dans l'évangile de dimanche dernier, on lisait la première partie de la grande prière sacerdotale, hein, donc chapitre 17, les versets 1 à 13, et où le Seigneur dit « J'ai gardé tous ceux que tu m'as confiés ». Enfin, je cite, je paraphrase, ce n'est pas les termes exacts, mais c'est ça que ça signifie. Le Seigneur est venu et il a gardé tous ceux que Dieu lui a confiés. Et alors, il y a une autre caractéristique de ce bon berger, c'est qu'il connaît ses brebis. Et ça, c'est très important, ce thème. Parce que les voleurs et les brigands, ils ne connaissent pas les brebis. Ils cherchent à entrer dans l'enclos par effraction, à enseigner, parce que là encore, c'est à double entente, à enseigner de fausses doctrines aux brebis, qui est le peuple de Dieu, et à disperser les brebis, à tuer les pasteurs pour que les brebis se dispersent, pour que le troupeau se disperse. Et là, au contraire, et évidemment, ces voleurs et ces brigands, ils ne connaissent pas. Pour eux, les brebis, c'est une quantité arithmétique d'individus. Alors que le bon berger, il connaît ses brebis, chacune par leur nom. Parce que chacune des brebis est un homme... qui est une créature de Dieu, homme ou femme, qui est une créature de Dieu, unique devant Dieu, parce que nous appartenons tous au genre humain, mais en même temps, nous sommes uniques devant Dieu. Et nous sommes constitués comme personnes devant Dieu par cette connaissance d'amour qui fait que le Seigneur s'adresse à moi et il me dit, avant que ta mère te mette au monde, dès le sein de ta mère, je te connaissais. Et vous savez que dans la Bible, connaître, c'est nommer. Donc, nous sommes connus par le Seigneur qui nous appelle par notre nom. Vous vous souvenez de ce fameux récit évangélique où il dit au possédé des Gadaréniens, « Quel est ton nom ? Quel est ton nom ?» Et le Gadarénien, qui est prisonnier des Satans, dit « Mon nom est Légion ». Mais en même temps, la question que Jésus pose au Gadarénien, « Quel est ton nom ?» Eh bien, en lui posant cette question, il commence une thérapie spirituelle. C'est-à-dire qu'il l'invite sous sa guidance à trouver son véritable nom. Le nom que Dieu lui a donné en lui donnant l'être et la vie. Vous voyez ? C'est très très profond tout ça. Et on voit que cette connaissance, elle est inséparable du fait de nommer et... Parce que nommer, c'est connaître, et connaître, c'est aimer. Il n'y a pas dans l'Écriture sainte, et dans ce récit d'Évangile, c'est bien dit, « Mes brebis me connaissent comme mon Père me connaît et que je connais mon Père. » C'est-à-dire que le Seigneur nous invite à la même intimité avec lui que celle qu'il a avec son Père. Vous voyez ? Donc, c'est... une manière de dire aussi, sous une autre forme, bien sûr, ce que saint Pierre nous dit dans sa première épître, que nous sommes appelés à être rendus participants de la nature divine. C'est tout le mouvement de la déification, en fait. Hein. Mais c'est cette grâce immense et imméritée qui nous est faite, que nous sommes appelés, en mettant nos pas dans ceux du Seigneur, à être rendus participants de la nature divine. Eh bien, ceci est possible parce qu'il y a cette intimité dont saint Jean nous parle dès le premier verset de son évangile, il y a cette intimité de connaissance et d'amour entre le Père et le Fils, et le Fils, il nous rend participants de ce mouvement d'amour qui nous donne à connaître, parce que, je le répète, c'est inséparable dans l'Écriture, connaissance, c'est amour, et amour, c'est connaissance. C'est pas... Là, on n'est pas du tout dans l'ordre de savoir de je ne sais quel ordre. On est dans l'ordre d'une intimité avec le Christ qui nous constitue comme personne, en fait. Parce que c'est ça aussi, le passage de l'individu à la personne, c'est aussi ça, c'est entrer dans ce mouvement de connaissance, d'amour, auquel le Christ nous appelle. Et c'est pour ça qu'il est appelé à aller chercher toutes les brebis qui sont dans plusieurs enclos et à les rassembler, parce que c'est un rassemblement qui doit intervenir semblablement au fait que le Père et lui sont un. Le Christ et le Père sont un. Et parce que le Père et le Fils sont un, eh bien, toutes les brebis des différents enclos doivent être rassemblées dans l'unité, de sorte qu'il y aura un seul troupeau sous la guidance d'un seul berger. Et évidemment, et c'est la fin du chapitre 10, là, je suis obligé d'aller vite parce que mon temps est écoulé, mais parce qu'il a dit « Le Père et moi sommes un », il va faire à nouveau. Là aussi, cette révélation a lieu dans le cadre de la dernière fête de l'année, c'est-à-dire la fête de Hanouka, la fête de la dédicace, donc qui fait appel à la reconsécration du temple après la profanation par je ne sais plus quel roi sous le temps, au temps des Maccabées, des frères Maccabées. Donc, c'est pas Artaxerces, c'est... Je ne me rappelle plus du nom. Mais c'est dans le cadre de cette fête qu'il va dire, pressé par les pharisiens qui vont lui demander « Mais si tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. » On voit leur endurcissement, là encore, parce qu'il n'a cessé de dire qui il était, mais ils n'ont pas entendu sa parole, ils n'ont pas voulu l'écouter. Et comme il a dit « Le Père et moi, nous sommes un », eh bien, on l'accuse de se faire Dieu et on le veut à nouveau le lapider. Mais saint Jean termine le chapitre 10 en disant qu'il échappa de leurs mains. Pourquoi ? Pas par un tour de passe-passe, mais parce que le temps n'est pas encore venu. Les hommes n'ont pas prise sur le temps de Dieu et sur le dessein de Dieu. Ils peuvent être les instruments du dessein de Dieu, comme le seront les chefs des Juifs pendant la Passion. Bon, mais n'oublions pas qu'à la Passion, le Seigneur, il va souverainement, librement et volontairement. Et nous le disons dans la liturgie, d'ailleurs, quand nous célébrons le canon eucharistique, la nuit où il fut livré, ou plutôt se livra lui-même pour la vie du monde. Donc c'est un acte souverain de la part du Seigneur, parce que qu'il accomplira lorsque le temps sera accompli. Et vous vous rappelez, si vous avez été attentif à la lecture, je n'en doute pas un seul instant, de dimanche dernier, au chapitre 17, justement, cette terminologie qui commence le chapitre 17 montre bien que le temps est venu, le temps est accompli. On va rentrer dans le temps de la Passion avec la grande prière sacerdotale du Seigneur au chapitre 17 est suivie immédiatement du temps de la Passion. Voilà ce qu'on peut, quelques pistes de réflexion sur ces chapitres 9 et 10. Donc je conclurai en disant que nous avons vu combien se déploie l'admirable pédagogie divine tout au long de ces chapitres. Depuis le prologue jusqu'à la fin du chapitre 10, le terme d'aujourd'hui, nous avons vu à l'œuvre cette pédagogie divine, nous avons vu ce dévoilement progressif du dessein de Dieu, et nous avons identifié tous ces discours de révélation sur le mystère du Christ, qui, plus on s'approche de l'accomplissement des temps, deviennent explicites, complètement explicites. Voilà, merci de votre attention.
Est-ce que vous allez donc continuer avec l'évangile des genres, comme vous avez dit lors d'une autre conférence ou...
Oui, je vais faire justement quelque chose sur les discours d'adieu. Et puis, bon, peut-être on verra ça avec le père Jean Bovoc, peut-être sur les récits de la Passion. J'irai
à la rentrée.
Oui. Ah oui. Peut-être encore deux séances sur Jean, je ferai autre chose après. J'ai dans l'idée, disons, de parler de la prophétie d'Israël et de l'évangile du Christ. De mettre en résonance.
Ça sera ton cours l'année prochaine.
Oui. La prophétie et l'accomplissement de la prophétie dans le Christ. Bon. Mais il faut quand même aller un peu plus loin dans l'évangile de Jean. Bon. On pourrait y passer des années sur l'évangile de Jean. Hein. C'est d'une telle hauteur spirituelle que, bon, on peut passer la vie entière dessus, mais donc il faut bien se limiter. Mais il me semble quand même nécessaire de parler des discours d'adieu et des récits de la Passion.